les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo tous les dimanches à 13h, le mardi à 23h et aujourd'hui, Rosendo reçoit Marie Lugan.
Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Je reçois effectivement Marie Lugan, une agitatrice culturelle actuellement dans les Tarn et qui a fait de l'agitation aussi dans les Tarn et Garonne et dans des autres endroits qu'on va bientôt détailler. Et l'animation, l'agitation culturelle dont je vous parle, c'est de la poésie, de la chanson française. Et Marie Lugan est aussi interprète. Bonjour Marie.
Bonjour Rosendo, bonjour à tous.
Alors Marie, tu es pour moi une des personnalités que depuis longtemps je voulais inviter parce que tu m'as fait découvrir la région à travers la chanson, parce que c'est ta manière comment tu animes les différents lieux où tu habites, parce que tu es pour la culture locale. Tu sais transmettre la poésie de la chanson, ou l'inverse, la chanson de la poésie, et surtout que tu interprètes. Nous on s'est rencontrés en 92, c'était à Montauban, et au moment de la journée de la femme, en 8 mars 92, au Dali. Tu chantais, tu as vraiment frappé les esprits avec cette interprétation magistrale de Barbara, entre autres, parce que tu as aussi déclamé de la poésie. Tu te souviens de ces moments-là, Marie ?
Je me souviens de ce très beau moment, très très beau moment, oui. Alors, il n'y avait pas que Barbara, il y avait aussi toutes ces femmes qui ont chanté de très très beaux textes, que ce soit Croix Vauquer, Catherine Sauvage, Anne Sylvestre, enfin, on va les citer, je pense, tout au long de notre rencontre.
Oui. Donc, tu as été, depuis 92, justement, tu as été à la retraite. Après avoir été enseignante dans les lycées agricoles, entre 82 et 87, tu avais été à La Réunion. Entre 88 et 89, tu as fait aussi de la radio. Tu as fait 30 émissions hebdomadaires. Et tu as fait un séjour auparavant, aussi en Écosse, parce que tu as eu une licence d'anglais. N'est-ce pas? Alors, comment ça s'explique que tu as une amoureuse de la langue française? Tu sois devenue une enseignante d'anglais.
Parce que tu crois que parce qu'on aime sa langue française, on n'aime pas les autres langues. Bien sûr, bon, écoute, c'est un peu le hasard qui m'a mené à tout ça. Je ne peux pas dire que ce soit un choix délibéré, l'anglais, mais bon, j'étais plutôt bonne dans cette matière. Et donc j'ai fait des études à la fac rue Lotman à l'époque, à Toulouse.
Oui.
Et puis tous ces choix ont été toujours accompagnés de la grâce de la chanson. Je peux te dire, par exemple, un exemple. On pourrait parler de hasard, on pourrait parler, de rencontres qui étaient peut-être programmées, mais j'y crois pas beaucoup. Mais en tout cas, tu vois, quand je me rendais, par exemple, à la fac à pied, rue des Lois, il y avait un petit magasin de disques qui s'appelait Chorus. Je pense que la dame qui le tenait s'appelait Madame Fauré, mais peut-être que je peux me tromper. Et on s'était liés d'amitié parce qu'on parlait chansons. Alors, je te parle des années 65, 66, tu vois. Et elle m'appelait, souvent elle me disait, j'ai reçu un beau 45 tours de Bernard Lavilliers. Tu vois, son premier 45 tours avait des poèmes qui n'avaient plus rien à voir avec plus tard le rock. C'était très poétique, mais il a fait aussi des choses poétiques après. Et puis j'ai découvert une foule de gens qui n'ont jamais été connus. C'est très émouvant de savoir qu'il y a des gens qui expriment des choses de leur sensibilité, de la perception du monde, et puis qui ne sont pas du tout promus. Et si tu veux, tu m'appelles agitatrice. C'est vrai que je pense sincèrement qu'on doit marquer tout ça, quoi, parce que c'est trop dur pour ces gens. Je peux te citer Marcel Rotel, je suis sûre que vous allez me dire, je ne les connais pas. Patrick Abrial, on l'a un peu connu, Guy Bontempelli, James Olivier, Ben, j'ai toute une liste de gens, si tu veux, que plus tard j'ai fait passer dans mes émissions, puisque j'achetais les disques, mm-hmm. effectivement. Oui. Et que c'était dommage qu'on ne les connaisse pas.
Je vois que tu as, sur la table où nous travaillons maintenant, et de la poésie, des chansons, est-ce que, à titre de présentation, tu voudrais déclamer un de ces artistes, ou tu voudrais citer un parmi toute cette myriade des artistes qui t'ont inspiré?
Oui, mais je pense que quelqu'un va le faire mieux que moi, parce que c'est, je pense que la chanson, le texte de Nazim Hikmet, mis en musique par Jacques Bertin, mm-hmm. résume bien ce que je pense, que le chant des hommes, voilà, le chant des hommes.
D'accord.
Par D'accord. Jacques Bertin.
Bon, exceptionnellement, on va le passer tout de suite, maintenant, et après tu vas nous le présenter. Et de manière qu'on pourrait connaître un peu mieux tes références.
Je te remercie.
Les chants des hommes sont plus beaux qu'eux-mêmes. Plus lourds d'espoir, plus tristes, plus durables, plus que les hommes. J'ai aimé leur chant, j'ai pu vivre sans les hommes, jamais sans les chants. Il m'est arrivé d'être infidèle à ma bien-aimée. Jamais au chant que j'ai chanté pour elle, jamais non plus les chants ne m'ont trompé. Quel que soit leur langage, j'ai toujours compris tous les chants. Rien dans ce monde, de tout ce que j'ai pu boire et manger, de tous les pays où j'ai voyagé, de tout ce que j'ai pu voir et apprendre, de tout ce que j'ai pu chercher et comprendre, rien. Rien ne m'a jamais rendu aussi heureux que les chants des hommes.
Voilà, les chants des hommes sont bien plus beaux qu'eux-mêmes. Plus lourd d'espoir, plus durable. Et c'est vrai que, bon, je vais dire peut-être quelque chose d'un peu... c'est très personnel. C'est vrai que tout ce qui est poésie... La poésie ne correspond pas toujours à l'attitude de celui qui écrit. Hein. Mmh. Et c'est vrai que son chant qui va rester, ben va nous donner certainement plus de sens de la beauté ou de que l'homme lui-même. Hein, dans sa fugacité.
Donc c'était Jacques je le prononce bien, Jacques
Bertin.
Oui, Jacques Bertin. Oui, cet amour pour la poésie, pour la déclamation, la lecture, est-ce que c'était un terreau familial qui a suscité cet amour pour la chanson française? Comment tu expliques ça? Parce qu'il me semble que déjà toute petite, tu avais envie d'affirmer un petit territoire.
Écoute, dans mes origines, c'est vrai qu'il y a des... Mon grand-père écrivait, par exemple. Bon, je sais pas trop, j'ai pas lu. Bon, j'avais un arrière-grand-père, prof de latin, d'anglais, je crois, au lycée de Revel, mm-hmm. tu vois. Et ce sont quand même des gens qui sont certainement littéraires, donc il y a bien quelque chose quelque part, même qu'il y avait des peintres, il y avait... Bon, alors, est-ce que c'est ce bagage que tu portes? Bon, ça, on ne peut pas le déterminer. Mais c'est vrai que, même quand j'étais petite, qu'on nous faisait apprendre un petit poème d'Albert Samain, de Victor Hugo, je trouvais vraiment ça beau. Et je me dis que la poésie, c'est à peu près, pour moi... le seul art qui te permette de dire des choses que tu peux pas dire dans ton quotidien. Tu peux te mettre en colère quand tu écris un texte, tu peux exprimer ton amour, tu peux exprimer plein de sentiments que tu ne peux pas parce qu'il y a la pudeur, tu ne peux pas exprimer ces choses-là. Alors c'est une occasion formidable.
Dans ton expérience d'enseignante et dans ton expérience aussi d'animatrice culturelle, comme tu l'as fait dans les Tarn-et-Garonne et maintenant que tu le fais dans les Tarn à Lautrec, est-ce que tu trouves que la jeunesse que tu fréquentes, que tu écoutes, et a cette approche de la poésie telle comme tu la ressens? Est-ce que tu crois qu'il y a eu un changement? Comment tu vois ça?
Alors, la jeunesse, effectivement, elle n'est pas toujours là où on va, mais je vais parler de deux petites expériences. Bon, d'une part, on parlera tout à l'heure, je pense, du printemps des poètes,
oui.
Hein, que nous animons pendant 15 jours chaque année, au mois de mars, donc à Lautrec, en suivant le thème qui est proposé au plan national. Et nous sommes deux ou trois anciens enseignants à aller dans les classes, que ce soit les petites classes certaines années, parce qu'on ne peut pas non plus être partout, mais on est pas mal invités dans les collèges et on travaille avec les collégiens. Et nous sommes souvent, très souvent, étonnés, en prélude à tout ce que nous ferons dans l'atelier d'écriture, on fait s'exprimer les jeunes et ils te parlent de la poésie, on fait une espèce de champ sémantique où on met tout ce qui vient à l'esprit sur le terme poésie et ce que l'on en perçoit. Et il y a une richesse énorme dans l'enfant, dans
oui,
le jeune.
Marie, mais ça c'est dans un cadre déjà préparé, oui, c'est dans un cadre déjà établi. Mais je parle de cette jeunesse que tu croises dans la rue, de celle qui n'est pas nécessairement sensible à la poésie, parce que là on est dans un camp de convaincus.
Bon, déjà dans la rue de Lautrec, on met, on agite,
oui.
Pendant le printemps des poètes, on croise des personnes, tout le monde est attentif, souriant, un peu étonné.
Oui, mais c'est dans un cadre.
Il y a
aussi
des jeunes, oui. Mais je ne peux pas te parler des rues de, hein, de Saint-Germain-des-Prés, ou peut-être il faudrait aller voir vers là-bas.
Ou ici à Montauban.
Ici à Montauban, oui. Parce que toi, tu as, qui connais Montauban, tu rencontres beaucoup de jeunes.
Oui, je l'ai rencontré, mais aussi toujours dans un cadre. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu les soirées crépuscules.
Oui.
Et il y a eu l'intervention d'Éric Cartier, que tu connais bien,
bien
avec
sûr,
ses ateliers d'islam. Mais c'est toujours dans un cadre institutionnalisé ou suscité par des organisateurs. Mais dès que je croise des jeunes pour leur parler de poésie, c'est toujours trop philosophique, c'est trop intellectuel, c'est un peu inutile.
Ça peut effectivement être trop intellectuel, pour, même pour la majorité des personnes.
Oui.
C'est un peu l'élite
qui
pratiquerait.
Oui.
Mais il y a des messages à travers la poésie qui sont un langage presque courant. Si je dis, par exemple...
Oui, vas-y.
Je vais dire quelque chose, mais comme j'ai tout étalé... regarde, on appellerait ça poésie, de Jean-Claude Renard. Apprenez à ne détruire ni l'air, ni l'eau, ni la terre, sans quoi s'efface le rire que vous promet leur mystère. C'est de la poésie.
C'est
en même temps un message que l'on pourrait lancer dans la rue, au nom de la protection de l'environnement, etc.
Mm-hmm.
Ça ne dit pas que des choses éthérées. Bien sûr qu'il y a des poèmes déroutants. C'est vrai qu'il y a... Mais voilà, moi maintenant, avec l'âge qui passe, les années qui passent, je me dis que ce n'est pas la facilité qui va t'apporter le plus de hauteur. Hein. C'est aller peut-être vers des choses improbables. La chose difficile, un peu hermétique, y rentrer dedans, faire l'effort, parce que l'effort, c'est poétique déjà. Hein, l'effort d'aller vers la culture, c'est de la poésie aussi. Ce n'est pas que de l'écriture, la poésie. C'est un regard sur les uns, sur les autres, sur soi-même aussi. Hein, voilà. Et donc, par exemple, dans Lautrec, on va dans des endroits assez improbables. On parlera tout à l'heure du Café Plume, si on a le temps. C'est un café où on peut faire de la poésie, en écrire, en dire. Éric Cartier est là très souvent. Mais on va aussi aux terrasses, où, bon, c'est un peu le zen.
Chez toi aussi, à l'Albaride.
Chez moi, on peut. J'organise vraiment des choses. Mais les terrasses, c'est pas du tout ouvert au départ à la poésie. On voit année après année, on fait un repas poétique où chacun parle, chacun s'exprime. Et finalement, les terrasses, le restaurant lui-même, se met à adhérer. Et c'est pas parce que les jeunes ne sont pas là, il faut trouver des choses pour.
Oui, oui, je parle aussi pour les vieux, hein, mais les vieux, j'ai moins d'espoir. Hein,
donc oui, voilà. Je crois qu'il n'y a que les jeunes qui vont pouvoir porter le flambeau.
Oui, mais à tout à l'heure, pardon, c'est au moment de l'introduction que tu nous parlais de la peinture comme partie formatrice aussi de ton esprit. Oui. Et cette peinture, je crus comprendre que c'était marqué par Magritte. Et il y a eu un tableau qui.
Oui, Magritte en général, pour tout ce décalage qu'il y a dans ces tableaux, cette interrogation. Tu n'as pas ce que tu attends. C'est toujours quelque chose d'autre que Magritte nous offre. Tu connais peut-être toute la série des.
Non,
ce n'est pas une pipe. Certainement.
Ah oui, celle-là, oui, bien sûr.
Tu connais.
Très connue, ce n'est pas une pipe, oui.
Moi, j'ai cherché à savoir lequel m'avait le plus touché. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai vu souvent chez moi, par exemple?
Tu parles du tableau des
Suissons. Le Blanc-Seing.
Mm-hmm.
Voilà, peinture à l'huile. C'est un paysage en forêt.
Oui.
On voit une très élégante cavalière amazone, au regard vide. Et tout est contrarié dans ce tableau, c'est-à-dire les troncs des arbres et le cheval. Tout est emmêlé, décalé. Il y a un art de la peinture qui fait que ça modifie la profondeur. Et bon, c'est ce jeu avec les espaces imaginaires qui m'accroche, parce qu'on peut y aller, on peut rêver, on peut être dérouté, et on avance. Voilà.
Mmh.
Au milieu de la ville, un agent en âge fait le ménage. Sur le manège ralenti des autos peu mobiles, circuler pour l'échappement, échapper ailleurs si j'y suis, décrocher la clé des champs. Place à l'étoile de Paris, le vaillant agent Moulin Marcel est doté de deux ailes qui brassent l'air de la place et qui l'asphyxie chasse. Concert d'avertisseurs, l'écho répond et ta sœur. Sous les capots, tigres et chevaux font le gros dos. Intervention énergique, les ailes de Moulin tourniquent. Excès des ailes, ça chie les bulles. 300 tours de clavicule. 1, 2, 3. Un métier pas facile, faudrait décorer ceux qui persistent. Sur le manège paralysé des autos plus mobiles, circuler pour l'échappement, échapper ailleurs si j'y suis, décrocher la clé des champs. Place à l'étoile de Paris, miracle des vapeurs d'essence, l'étoile se pose sur la coiffe du héros qui a soif d'air pur et de silence et de reconnaissance. L'agent retient son souffle et ses mouvements. Sous ses sourcils en arc, ses yeux sont triomphants. Il n'entend plus les répliques des rouleurs en mécanique. Il s'enferme dans sa bulle et prend de l'altitude. Voilà l'agent en short dans les Alpes au milieu d'un troupeau. Les moutons bêlent des cantiques, les clarines les escortent. Circulons mes frères et sœurs, moutons non sans nous fâcher. Transhumons vers les hauteurs, suivons l'étoile du berger. Une brebis galeuse crève la bulle voyageuse, dénonce les absences du planton en présence. La sanction tombe à Jean Moulin, privé de manège. Retour aux quatre chemins, sorti des collèges. On lui a coupé les ailes, la hiérarchie est cruelle. Faut regagner ses galons, piéton après piéton. Et pour boucher le trou, un nouvel agent fait le ménage sur le manège sans fin des autos qui rendent, des autos qui rendent, des autos qui rendent,
des autos qui rendent. J'ai choisi de cette chanson Manège de Frédéric Blanchard parce qu'il est l'initiateur d'une formule dont je vais parler, c'est Chantons sous les toits. Mmh. Chantons sous les toits qui vient d'arriver sur Montauban, je crois.
Nous sommes toujours avec Marie Lougan qui nous présente, qui nous a présenté la chanson Manège de Frédéric Blanchard, et je profite pour sauter sur l'occasion afin que tu nous parles un petit peu l'histoire de cette manifestation très très importante pour les Tarnais, pour les Tarnais-Garonne aussi, qui s'appelle Chantons sous les toits.
Frédéric Blanchard est auteur, compositeur, interprète. Il a créé sa compagnie, l'Oiseau-Lire Compagnie. L'association du même nom a pour vocation de promouvoir des auteurs, compositeurs, interprètes qui sont accueillis par des particuliers amoureux de chansons françaises, sous leur toit. Nous les accueillons sous nos toits. Cette formule « Chantons sous les toits » permet de découvrir les artisans de la chanson. Frédéric a écrit lui-même de nombreuses comédies musicales et nous avons eu le plaisir d'assister à la représentation de l'une de ses comédies musicales dans son domaine articole, où les enfants qui travaillent dans les ateliers proposés par l'association du même nom ont mis leurs multiples talents au service de l'art et de la poésie. Tout tourne autour de l'art et de la poésie.
Je retiens cette phrase artisan de la chanson. Est-ce qu'il existe, à ton avis, des industriels de la chanson?
Écoute, j'ai entendu, je peux me permettre, j'ai entendu ce matin sur France Inter des choses très bizarres.
Oui, par exemple.
Ben qu'en France, on ne pouvait pas... si tu veux, si les jeunes chantent en anglais, c'est parce qu'en France, tu n'as que trois muscles pour chanter. Ah, alors oui, que bon, les Canadiens, ils ont le nez, etc. Enfin, c'était aberrant, voilà. Alors que l'on sait que tous ces gens de talent avaient leurs chansons formidables. Voilà, n'attendent qu'à être entendus.
Par rapport à la langue française, je reviens souvent sur cette notion de la différence avec une autre langue, comme l'anglais, parce que tu es une spécialiste de l'anglais. Mmh. Et je ne vais pas citer un écrivain que je adore, parce que je le cite souvent. J'ai peur de trop me répéter. Donc, il disait que c'est ta critique ou cet attachement que nous avons sur notre propre langue est aussi cohabité par une exigence et une difficulté à se battre avec les mots. Parce que selon lui, est plus difficile d'écrire avec une langue qu'on connaît moins, comme par exemple l'anglais. Bon, je m'explique, parce que je développe mal la présentation. Il disait que lorsque on étudie une autre langue, on revient vers notre langue d'origine de manière un peu plus exigeante. Et je crois que ce rapport avec le français est semblable à celui qu'on fait avec la peinture, non? C'est-à-dire que la peinture, pour la voir, un dessin, pour mieux les voir, c'est nécessaire de prendre des reculs, de faire une distance pour mieux apprécier. Donc, est-ce que tu crois que pour manier la langue, pour faire de la chanson, pour déclamer, pour articuler la langue qui, dans notre cas, c'est le français actuellement, est-ce que tu crois que c'est nécessaire de passer par une case départ, d'explorer des autres langues pour se rendre compte de la richesse qu'on a?
C'est fort possible. C'est fort possible.
Bon, c'est une réponse assez courte.
Voilà. Scientifiquement, je ne saurais pas répondre. Mais c'est vrai que plus on connaît, de toute façon, plus on découvre, plus on apprécie ses propres mots.
Oui. Donc l'écrivain dont je parlais tout à l'heure, c'est Jorge Luis Borges, argentin. Mm. Donc il était bilingue parce qu'il parlait anglais et espagnol. Et il avait une critique assez féroce contre lui-même en disant que il se sentait mal à l'aise et révisait à chaque fois ses textes parce que il était tellement exigeant avec ses propres textes que parfois c'était une douleur d'accoucher certains textes. À tel point que même, il jouait les faux modestes, on doit le dire, il disait que les traductions qu'il faisait de ses textes étaient meilleures que les textes originaux. Donc c'est pour te parler, pour revenir à Chantons sur les toits, que c'est exclusivement de la musique à texte, musique
de la chanson française. Et auteur, compositeur, interprète.
Oui.
Chaque année, vers le mois de novembre, décembre, une quinzaine de groupes ou de chanteurs se réunissent à Albi. Autrefois, ça se faisait aussi. Il y avait une seconde audition à Toulouse avec 15 autres artistes. Et tous les futurs accueillants, ou même ceux qui ne sont pas des accueillants sous leur toit, viennent découvrir tous ces talents. Et à ce moment-là, eh bien, on choisit un petit peu, hein, on fait un petit choix, on fait son petit marché en disant ceci correspondrait. Parce que Chantons sous les toits, ce n'est pas que inviter sous son toit, c'est aussi organiser. C'est une organisation où il faut être au moins au départ 30 une semaine avant. Et à l'arrivée, il faut arriver à être 60. Hein. Donc c'est quand même, il faut vraiment travailler. Tu fais tes propres affiches, tu vas. Moi, j'envoie 100 lettres à mes copains. Mmh. Et j'ai remarqué que... Alors là, je vais faire une petite parenthèse. J'ai remarqué que mes petites lettres, où je mets un joli timbre, où je rentre dans la poste de Lautrec et je tamponne le postier, il me dit « Ah, voilà Madame Lugan, voilà le tampon. » Il m'attire, ces lettres m'attirent pratiquement mes 80 visiteurs, mes 80 auditeurs, spectateurs. Alors que Internet n'en attire pas.
Mais puisque tu parles d'Internet, je vais soumettre modestement un écrit que j'avais fait par Internet, c'est quelques lignes, n'aie pas peur. et j'aimerais que tu sois suffisamment dur et sincère avec ce que je vais te dire et que je vais te lire, parce que je n'avais pas préparé ces coups, mais... Et c'est quelque chose par rapport à un baiser par Internet, non? Et tu sais que souvent quand on écrit des messages, soit par texto ou à travers un écran, souvent on dit « je t'embrasse », « bisous », etc. Donc, à ce sujet, j'avais écrit ceci. Un baiser, bon, un baiser c'est le titre. Hein. J'ignore si les électrons d'un mail atteignent les utopies qu'autrefois. Une lettre portée avec la lenteur propre d'un voyage d'une attente, de la sensualité intime du papier manuscrit. Avant, la magie de l'écriture opérait. Avant, un baiser était un vrai baiser. Maintenant, le baiser n'est devenu qu'un mot sur un écran. Donc, voici un baiser, voici un mot. Et tu fermes les guillemets. Alors, ta réaction ?
Ma réaction ? Oui. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire, n'est-ce pas ?
Oui, parce que quand tu le fais tes lettres avec les petits timbres, et tu fais primordialement parvenir d'une manière un peu plus durable.
Hein ? Durable, et puis bon, j'y mets mon âme aussi.
Oui, voilà. Ça va avec. Oui. Oui. Et donc, pour Chantons sur les toits... Je crois que les dernières fois que j'ai assisté à une de tes manifestations culturelles, c'était chez toi, à l'Albarine, cette belle maison à la campagne de Lautrec, et où tu avais présenté Pierre Deliot, n'est-ce pas? Qu'on va écouter maintenant.
Oui.
Ça t'a dit?
Si un jour tu repasses du côté de l'impasse de la petite fadette, rappelle-toi la rouquine, intentine et coquine poussant la chansonnette. clé dans la tête. Elle parlait d'amour volage qui finissent en orage. Mais moi, je ne voulais pas, je voulais pas, je voulais pas. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe du côté de l'impasse de la petite fadette? Où est-elle la rouquine avec sa voix sublime, sa triste chansonnette? Comme elle m'entête. Elle parlait des hommes qu'attire, ne pense qu'à la chose estire. Mais moi, je l'aimais vraiment, tellement, tellement, tellement. Maintenant quand je passe du côté de l'impasse de la petite fadette, je cherche ma rouquine et puis son cœur sublime chantant la chansonnette. J'ai le mal de tête. On n'a plus jamais revu sa petite main toujours tendue. Moi je l'aurais bien prise pour la vie, pour la vie, pour la vie. Jamais plus je ne repasse du côté de cette impasse qui m'a fait perdre la tête.
C'était Impasse de la petite fadette par Pierre Deslieux, donc j'ai eu le plaisir de recevoir, puisque il faut quand même rajouter l'idée que quand tu reçois un artiste et sa compagne, pour le cas de Pierre Deslieux, il reste autant de jours qu'ils veulent. Lui, il est resté 2-3 jours. Voilà.
Chez toi, à l'Alvarine.
Tous les deux sont restés 2-3 jours. Ça veut dire que bon, il y a aussi une relation d'amitié qui s'instaure, qui s'installe. Et on a chanté jusqu'à mardi. J'ai entendu tout ça sur le piano. Donc, je précise que Pierre a obtenu de nombreux prix, dont 3 fois le prix de la SACEM. Il a assuré la première partie de Jean-Roger Caussimon et ainsi que celle de Henri Tachant. C'est un auteur-compositeur de talent. Il a interprété aussi les plus grands, Brel, Ferré, Ferrat. Et je cite le journal Azimut qui dit « De chaque touche de piano, du piano de Pierre, de Lio, s'échappe une émotion qui ne peut que nous faire vibrer. Il nous emporte sur les rivages de la poésie et nous hypnotise grâce au jaillissement des notes et des mots. »
Au rivage de la poésie. Bien, parlons-en, parce que il y a aussi tout près de Montauban, à Montech, l'association Vent de temps poétique, où tu es aussi une des agitatrices. Tu assistes.
J'étais. Parce qu'il, en principe, Vent de temps poétique a édité son dernier numéro au mois de juin. Voilà, j'ai participé à ce numéro, j'ai fait les corrections. Et puis, malheureusement, bon, Francine, c'est vrai...
Francine Aragon.
Aragon, Francine Aragon, qui est l'épouse du créateur, du fondateur, Roger, le poète Roger Aragon, qui a mis en place cette revue poétique qui rassemble un petit peu, depuis 30 ans peut-être, les poèmes et les poètes de Midi-Pyrénées. Voilà, parlons de la modernité, elle n'était plus assez moderne, Francine, voilà.
Ça c'est la version qui s'est opposée à Francine.
Il faudrait presque faire une émission là-dessus, parce que c'est très douloureux pour elle, hein, puisque elle a porté le flambeau après le décès de son mari, elle a vécu pour ça. Et puis bon, il lui a été signifié qu'il fallait passer à tout ce qui était ordinateur, bon, voilà. Et bon, je veux dire que c'est un coup très dur pour elle. Et si elle écoute cette émission, je lui dis que je pense beaucoup à elle et voilà, qu'on fera tout pour l'aider.
Passons-y à la prose, plutôt au roman, parce qu'il y a un livre dont tu voulais évoquer, qui t'a marqué. Un livre de Jean Genet, je pense. Je crois que c'était Jean Genet. Les hussards sur les toits.
C'est le hussard sur le toit. Effectivement, le hussard sur le toit que j'ai lu, comme j'ai lu Giono quand j'avais 16-17 ans et bon, qui m'a, dans cette époque-là, c'est l'adolescence, hein. Il faut savoir qu'à l'époque, on était adolescent jusqu'à 21 ans, puisqu'on était majeur à 21 ans. Ça paraît extraordinaire. Et c'est vrai que Giono, ce pacifiste incroyable, qui s'est engagé pour dire l'amour de la terre, l'amour de... Il a toujours des personnages très purs, très... qui ne tombe jamais dans les pièges de la lâcheté, de la peur. C'est le cas de Angelo, qui est le héros du hussard sur le toit, et qui traverse toute une période terrible de choléra. Voilà, il rencontre une jeune femme un peu énigmatique, Pauline, et tous les deux, ils vont traverser toutes ces crises-là qui, ce sont des allégories, c'est la guerre, c'est la lâcheté, c'est, voilà, et je trouve ces personnages formidables, quoi. Voilà.
Et, mis à part la chanson, la poésie aussi, il faut dire et redire que, à part l'organisation qui cela implique, tu interviens aussi, tu es actrice de cette interprétation, des chansons, des déclamations. Tu parles moins sur toi, tu parles moins de... Souvent, j'essaie de t'encourager à parler de tes interprétations, non? De Brel, Barbara, Léo Ferré, Ferrat. Pourquoi tu ne parles pas assez de toi?
Alors, pourquoi je ne parle pas de ça? Je chante, c'est tout. Je n'en parle pas. Quand on me le demande, je le fais, mais... Voilà, c'est comme j'aime bien le dire à tout le monde, dans la vie, enfin, je pense que tout le monde sera d'accord, on a du mal à convaincre. On croit en plein de choses et on croit pas tous dans les mêmes choses, automatiquement, sinon ce serait trop facile. Et on a vraiment du mal à faire passer les choses. Voilà, donc quand tu chantes, si tu mets vraiment toute ton ardeur, on va dire... Mm-hmm. Tous tes sentiments, c'est vrai que tu arrives à toucher, et c'est un moment de bonheur. C'est un peu orgueilleux. C'est un peu, voilà, t'es un peu tout puissant quand tu chantes. Donc, c'est pour ça peut-être que je n'en parle pas trop. Quand on se retrouve, oui, pour chanter dans diverses occasions, c'est vrai que j'ai grand plaisir à mettre vraiment toute mon âme là-dedans.
Oui.
Mais pour en parler, j'aime pas trop parler de tout ça.
Bon, je vais en parler un petit peu. Alors, la dernière fois que je t'ai entendu chanter un petit comité, là, nous étions à l'Albarine, justement l'endroit où tu organises les rencontres des chantons sur les toits et les printemps des poètes, qu'on va en parler aussi. Et on t'a demandé de chanter des Barbara. Dis, quand reviendras-tu? Tu l'as chanté à capelle, presque comme une confession intime, d'une tête à tête. Tu l'as chanté presque en déclamant. Et c'était la première fois pour moi que j'entendais une version parlée presque chuchotée de cette grande chanson de Barbara. Et tu l'as fait parce que tu le sentais plutôt intime à cette chanson, cette version, ou c'est parce que tu avais mal à la gorge et tu ne pouvais pas chanter?
Tu me poses des questions difficiles, parce que... Quand j'interprète, c'est vrai que c'est selon. Souviens-toi, on était dans un beau jardin avec un beau soleil en face. Il a été plutôt rare, hein, ces semaines dernières là. Et c'est vrai qu'il y avait certains éléments. Moi, j'interpréterai jamais de la même façon. Donc, il devait y avoir des petites choses qui m'interpellaient et qui faisaient que j'avais plutôt envie de le chuchoter. Mm-hmm. Voilà. Et puis, bon, c'est vrai que a cappella, c'est jamais simple, hein.
Voilà. Donc, avant de parler des printemps des poètes, je pense qu'on va laisser notre dernière pause musicale et on parlera des printemps des poètes.
Appel de la lune, elle voudrait me rencontrer sur la grève à la brune, m'entretenir d'affaires concernant terre et mer. Vois-tu ça déconne, air de riez-vous, la raison tout se meurt bien devant vous. Où est passée votre âme? Tu n'en c'est rien. Pourquoi tirer l'alarme toujours en vain? Vous n'avez plus qu'un an. Après, fini la triste comédie. Le grand bal des humains. Criez, dansez, réveillez-vous. Des rats allumés à votre goût. La flamme qui nous anime, qui fait de nous des hommes. De la musique au lieu. Les nuages sous ma jupe recueillent mes larmes argentées, si lourdes qu'elles deviennent en l'espace d'une heure. Votre humble fossoyeur. Ainsi une larme provoque la crue, nuages et marées n'obéissent plus. Et la mer se déchaîne, bien malgré moi, emportant le décor, vos vies, vos toits. Mais c'est bien votre ouvrage, reconnais-le, comment tourner la page. Votre espoir est bien peu. Criez, dansez, courez, partout face à la lune, nous sommes des loups sauvages. Naissance cultivée par essence. De la musique au lieu du bruit, plus de télé, de la poésie avant qu'il nous assomme et demain nous contrôle. Une renaissance passera par la raison. Rallumez vos consciences sans oublier le cœur. Je ferai la balance. Fort de ton confort, conforte-moi. Oserez-vous bouger rien qu'un seul doigt? Vous êtes tous endormis, je le vois bien. Mais je perds le contrôle, salaud d'humain. Je prendrai ma retraite anticipée à 92 ans et 4 milliards d'années. Voyez cette corde autour du cou marcher dessus. C'est notre jour avant qu'il nous assomme. Pour finir, la lune a voulu me consoler, mais j'étais déjà mort par les gaz asphyxiés. Adieu, ma terre et mer.
C'était Olivier Lotte que nous avons écouté il y a très peu de temps chez Gisèle et Daniel à la Bruguière dans le Tarn. Voilà cet Olivier qui entraîne en douceur le public sur la lune en l'accrochant au fil bleu de son imagination. Et pareil, lui aussi, on a très tard dans la nuit, avec tous ceux qui le souhaitaient, interprété plein de chansons, toujours très proche de ses artistes.
Merci Marie pour cette belle présentation. Franchement, quand j'entends comment tu présentes les artistes, j'ai envie de prendre ma retraite anticipée, comme dit la chanson, parce que tu le présentes divinement bien. Et entre coulisses, je commentais ton choix de Jean Genot, qui je reviens un peu sur lui parce que c'est un, pour moi une image des libertaires, une image qui a défendu sa chère liberté. Un peu comme toi, quand chaque fois que quelqu'un empiète un petit peu sur tes choix, sur ta liberté, tu réagis comme une véritable muse qui défend sa liberté. Et donc, pour revenir à la retraite anticipée de 82 ans, donc parler de ta chanson de Lot, et c'est ta poésie là, toujours, toujours présente. Excuse-moi de revenir là-dessus, mais là, comment, quel message pourrais faire passer à nos auditeurs, au public, pour qu'ils puissent être plus proches de la poésie, pour qu'ils n'aient pas de préjugés vis-à-vis de ce qui est la poésie?
Il faut beaucoup se libérer. Il faut peut-être aussi mettre de côté nos a priori sur... Il y a plein de gens qui aiment la poésie, mais qui croient que c'est des choses secrètes. On découvre, je vois à Lautrec, des écrits. Il y a autour de nous plein de personnes qui écrivent de très très belles choses. Je sais pas, peut-être j'aurai pas le temps, mais je reviendrai si vous m'invitez à nouveau.
Mais tu vas prendre ma place, je crois, quand tu présentes l'émission.
Je viendrai vous parler de tous ces poètes qui se joignent à nous pour dire leurs textes aussi. Bon, je vais pas les énumérer parce que je vais en oublier. Je parlerai plutôt d'un lieu, si tu veux bien.
Oui.
C'est le Café Plume. Peut-être vous en avez un peu entendu parler.
J'ai beaucoup entendu parler, très
oui,
bien.
Beaucoup. Alors, à l'origine, je vais en parler. L'association Macaz, elle est ancienne, elle est antérieure à l'arrivée, à la création du Café Plume à Lautrec. Elle a toujours pour objectif de favoriser l'accès à tous à la connaissance des arts et des cultures du monde, en milieu rural, à promouvoir la diversité culturelle. En 2010, l'action de Macaz s'est concentrée sur le Tarn. L'association s'est dotée d'un outil, le Café Plume, à Lautrec. Ce lieu, installé dans une ancienne école, dans une bâtisse du Moyen-Âge, comprend une salle de spectacle de 49 places, qui accueille des artistes tout au long de l'année et d'une programmation qui permet d'explorer de nombreux univers artistiques. Et c'est vraiment très très intéressant. À l'actif de Macaz se tiennent aussi au Café Plume des débats citoyens, des rencontres littéraires. Macaz propose des actions de médiation au travers d'ateliers en milieu scolaire aussi. Le Café Plume, c'est aussi le café et la restauration, une petite épicerie aussi de produits locaux. La librairie, labellisée LIR, librairie indépendante de référence, propose 3500 livres. Le petit panneau devant la porte nous dit « Entrée libre ». Entrée, s'écrit E-N-T-R-E-Z. Entrée libre. Ces deux mots révèlent bien l'esprit qui règne au Café Plume, où on se sent vraiment bien.
Tu ne l'as pas mentionné, à côté du Café Plume, il y a aussi une galerie d'art.
Il y a une galerie.
Il y a donc
Et récemment, on a fait le Pinceau de Crocagne, c'est l'association qui organise Peintre dans la rue. Et donc, pendant deux jours, nous avons, dans les rues de Lautrec, des peintres venus d'un peu partout, qui essaient d'exprimer l'art. Alors, j'aurais aimé citer, si c'est possible, Pauline réside chez nous, chez moi, en tant que je suis famille d'accueil, donc, et elle réside pour quelques mois à la maison. Et elle m'a dit, je vais essayer de te dire ce que c'est l'art et la poésie. Est-ce que je peux dire ce qu'elle m'a dit, Pauline?
Bienvenue, surtout que je connais Pauline aussi.
Bon, alors elle m'a dit, alors l'art, moi je le vois comme ça, c'est rendre visible aux yeux de tous la beauté ou la laideur de ce monde. L'art pour moi, c'est transformer l'invisible en création, c'est faire parler son âme, lui faire raconter des histoires. J'ai trouvé ça tellement bien, je lui dis, je crois que je vais te citer.
Mais ça aurait été bien aussi qu'elle vienne.
Elle n'était pas là aujourd'hui, elle aurait bien aimé. Et la poésie, c'est la dissection des sentiments humains, c'est la beauté des mots suspendus qui vous parlent de la vie.
Ah, je suis content d'entendre, surtout que Pauline est très jeune.
Ah, elle a 17 ans et demi.
Oui.
Et elle aime beaucoup la littérature, je pense que toutes les deux, on chemine bien.
Très bien. Puisqu'on parle de la poésie, nous devions parler aussi des printemps des poètes.
Alors, le printemps des poètes, est-ce que tu sais ce que c'est, le printemps des poètes? Est-ce que tu sais depuis quand ça existe?
Je vais dire que je ne sais pas pour te donner l'occasion de parler davantage.
Bon, c'était, je pense qu'il a été créé, ce printemps des poètes, en 1998 par la ministre de la Culture, ça devait être Catherine Trottmann à l'époque. Et donc, elle a voulu promouvoir justement la poésie. Et je pense qu'elle est arrivée à promouvoir. Cette manifestation s'est pérennisée. À quelques difficultés financières, elle appelle un petit peu à l'aide. Mais depuis 98, à travers des thèmes, elle arrive à toucher de plus en plus d'associations, de lieux de spectacles. Bon, sur Toulouse, Montauban aussi, il doit y avoir pas mal de choses. Et nous avons créé notre association Éclat de Rime, donc il y a 3-4 ans. Et auparavant, nous menions un petit peu nos activités pendant tout le mois de mars, une partie du mois de mars, pour accompagner ce projet national. L'an dernier, c'était sur Enfance. Cette année, c'était Les Voix du Poème. L'an prochain, ce sera un sujet magnifique, la poésie au cœur des arts. Alors là, les arts, on va bien réfléchir parce qu'on va faire beaucoup de choses. On est subventionné à partir de cette année, pas mal. Et on va pouvoir intervenir dans les écoles un peu partout. Donc, ce sont 15 jours de création, d'écriture dans les classes ou à la maison de retraite ou au petit CLAE qui s'appelle maintenant ALAE. Rencontre avec tout le monde, des scènes ouvertes, Café Plume et le Café des Terrasses qui nous accueillent. Et vraiment beaucoup d'activités, d'animation et du bonheur.
Marie Lougan, comment nos auditeurs pourront contacter cette manifestation? Comment pourront te joindre? Est-ce qu'il y a un téléphone?
Je préfère donner un téléphone, effectivement. Oui. Hein. Oui. Et que ce soit aussi pour toutes les personnes citées aussi, que ce soit le Café Plume pour avoir le programme, puisqu'il y a un programme régulièrement. Voilà, on peut m'appeler.
Hein, à quel numéro?
Au 05 63 70 45 83.
Bien. Et est-ce qu'il y a un lien internet?
Voilà, oui, il y a un lien internet.
Pour revenir.
Je peux le donner, oui. Donc c'est marie, M-A-R-Y, point, Lugan, L-U-G-A-N, arrobase, live, L-I-V-E, point, fr.
Nous sommes toujours avec Marie Lugan. Il nous reste encore 4 minutes pour développer tes activités, Marie. Et donc la poésie, les chants, les manifestations culturelles à Lautrec, et aussi un peu dans le Tarn-et-Garonne, parce que je sais que tu interviens parfois avec la famille, avec toi-même, tu t'as seule, tu chantes, tu fais de la poésie. Et je vois qu'il y en reste encore pas mal de textes devant toi. Est-ce que on pourrait faire les choix un petit peu de ce que tu aimerais lire, ou chanter, je ne sais pas.
Je reviendrai chanter quand je ne serai pas enrhumé. Tu veux bien?
Alors, je t'invite alors à reprendre un de tes textes.
Alors, écoute, j'ai envie de lire deux petits textes de jeunes 6e et 5e qui ont écrit sur le thème enfance l'année dernière, en 2011. Voilà, on en fait des recueils, on a des projets aussi d'enregistrement CD avec les profs de musique parce qu'on associe les profs. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors, je vais lire le texte d'une Marie qui dit « Ma maîtresse m'a grondée. Ma maîtresse m'a grondée, car en classe j'ai joué. J'ai cassé mon stylo noir pour ne pas faire mes devoirs. J'ai volé les craies pour que les leçons ne soient pas copiées. J'ai vendu mon livre pour ne pas avoir à le lire. J'ai caché les clés pour que l'on ne puisse pas entrer. Et puis, ma maîtresse m'a grondée. Ma maîtresse préférée. Et j'ai regretté. À ma maîtresse adorée, j'ai écrit un poème. Ma meilleure maîtresse m'a félicité. Depuis, je vais toujours à l'école. Et je suis sage comme une image. » Et j'ai un second texte, si tu veux bien, de Dorian. Alors, c'est pas tout à fait le même style. Parce qu'effectivement, il faut bien dire qu'il n'y a pas de canevas. Bon, on parle beaucoup de la poésie avant qu'ils ne se mettent à l'ouvrage. Mais ils écrivent aussi, soit en groupe, soit tout seul. Là, ça s'appelle Passer loin de l'horloge. Passer loin de l'horloge. Laisser l'horloge dormir, car y habite la mort. Chuchote, souviens-toi, rapide, avec sa voix. Passer loin de l'horloge. et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immobile, Dorian.
Mais dis donc. Donc, on peut encore abriter des espoirs sur les futurs de l'humanité avec des productions poétiques comme
tout
ça.
Fait. Je peux préciser que je me suis peut-être trompée à la lecture, mais bon, peut-être que chuchote, c'était peut-être le sujet la mort et je ne l'ai pas associé. Bon, redites-le, recopiez-le, redites-le à votre façon.
Merci beaucoup Marie Lugan d'être avec nous et je t'encourage à revenir parce qu'il nous reste encore pas mal de sujets à développer.
J'avais pas mal de choses dans mon petit panier.
Oui. Et j'espère que à Lautrec, dans les Tarn, pourront nous suivre aussi. Tu les passeras notre bonjour.
Bien sûr.
Et aussi notre podcast, comme ça, écouteront l'émission. Merci à tous.
Merci à toi. Merci à vous.
C'était les rendez-vous de Rosendo aujourd'hui avec Marie Lugan. Retrouvez le podcast, il est téléchargeable sur cfmradio.fr.